au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Eh oui, bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour, parce que, je pense que je vais remplacer Hélène quatre fois ce mois-ci. Tiens, on y va. Oui, Hélène a eu une petite urgence, alors je suis là, à pied levé, puis je suis très content d'être là. Salut Mathieu.
Bonjour, j'allais dire Hélène.
Hélène,
bonjour,
oui.
Bonjour Denis Martin, bonjour tout le monde.
Écoute, aujourd'hui, là, c'est un peu pluvieux, mais on voit qu'on s'en va. Vers l'été, là, ça commence.
J'ai croisé une dame ce matin sur le trottoir, tout grand sourire, qui me dit mais qu'est-ce qui se passe? À Vancouver, ils n'ont pas de pluie. Puis elle a continué son chemin.
Mais c'est vrai, il n'y a pas de pluie à Vancouver, mais il y en a eu beaucoup. Habituellement, c'est très pluvieux. Mais moi, je regarde ça en me disant que, de toute façon, c'est pas encore le temps de sortir les plats de tomates. Vous savez que je suis jardinier, hein, Mathieu? Je suis vraiment jardinier.
Dans l'âme ou...
Comment je pourrais expliquer ça? C'est ma copropriété, c'est une gang de jeunes. Moi, je suis le vieux de la gang.
D'accord.
les deux qui habitent en bas, et les plus vieux. Et il y a une voisine qui est agronome de formation.
Ah.
Et on a décidé d'utiliser presque la totalité de la cour arrière, qui est vraiment tout petite parce que c'est un stationnement, mais on avait du gazon. Et puis, la ville nous fournit quand même... chacun a droit à un sac de terre ou un sac de compost. Et puis, on s'est fait des jardins. Et c'est hallucinant, je me fais des tomates. Puis, je réussis à les faire, hein, puis elles sont bonnes.
Ça doit être ensoleillé dans votre
stationnement
arrière.
C'est très ensoleillé. Oui, bien, le stationnement arrière donne sur l'est. Alors, c'est sûr que... c'est sur l'est. Donc, il y a beaucoup d'ensoleillement.
D'ailleurs, il faudrait voir à quel moment la ville distribue les plants. À chaque année, ils font ça.
C'est autour de la fête de Dollar ou de la fête de la Reine.
D'accord.
Donc,
c'est bientôt.
C'est très bientôt, dans deux semaines. Mmh. Bon, donc aujourd'hui, une émission. Écoutez, je pensais à pied levé, ça se peut qu'il y ait des petites choses que je ne vois pas tout à fait près, mais on va y aller. On va commencer par la météo, justement, puisqu'on en parle. On prévoit une pluie intermittente qui devrait cesser cet après-midi. On parle du sud du Québec, puis laisser une place à un ciel nuageux. Température autour de 8. Ça va réchauffer, là. Ça, je vois ça dans les prévisions là, d'ici la fin de la semaine. Puis c'est sûr qu'il y a encore de la pluie, hein, beaucoup de pluie dans les prochains moments, dans les prochains jours. Mais bon, ça va nettoyer puis ça va aider à faire pousser les choses. L'Est du Québec aussi, hein, on a encore de la pluie. Maximum de bas devrait atteindre 9 degrés dans le restant de la journée. Puis il y a un risque de gel au sol dans l'Est du Québec. Et puis le Nord, c'est aussi des conditions plus fraîches avec un ciel couvert. Quelques averses résiduelles, puis là aussi, hein, température autour de 2 à 7 degrés. Sud de l'Ontario, même situation qu'ici, alternant soleil-nuage, quelques averses, et là-bas, on parle de 10 à 12 degrés. Dans l'Est, donc Ottawa-Kingston, même chose, maximum prévu autour de 9. Ciel nuageux à Thunder Bay, à Sudbury. D'ailleurs, on va parler à quelqu'un à Thunder Bay aujourd'hui, Julien Caillouette, pour parler des actualités francophones du Canada. Alors là-bas aussi, c'est nuageux, température très basse, autour de 1 degré ce matin. Province atlantique, c'est des conditions variées, ciel dégagé, et peut-être plus même ensoleillé par moment à Terre-Neuve. Ailleurs, c'est un mélange soleil-nuage, passage nuageux, ça se ressemble pas mal partout. Là où il fait beau, c'est dans les provinces de l'Ouest. Hein, on parle de 12 à 19 degrés, 12 plus à l'Est et 19 en Alberta. Et c'est généralement ensoleillé. Et oui, la Colombie-Britannique, là aussi, il fait beau. On parle de 15 degrés avec du soleil. Alors, au sommaire aujourd'hui, je vous l'ai mentionné, hein, on va parler d'actualités francophones du Canada. On va aussi parler de l'école publique de Saint-Enfant-Jésus du plateau Mont-Royal. Et on va donc recevoir le président du conseil d'établissement, puisqu'on parle d'accueillir des élèves qui ont des déficiences auditives et visuelles de partout. Alors ça, c'est intéressant. On va faire un petit tour d'horizon là-dessus. Et ça, c'est pas encore confirmé, mais on va peut-être parler du fait que Vue et Voix, hein, qui est la patronne de Canal M, Vue et Voix, 50 ans. 50 ans. Toi, Mathieu, t'as-tu atteint 50 ans?
Non, pas encore.
Ah, mon Dieu, c'est jeune.
Ça sent bien, mais pas encore.
Moi, je vous l'ai dit, hein, je vais avoir le transport en commun gratuit à Montréal cette année. Ça vous dit mon âge. L'autre jour, je me suis dit, je reçois une information, je dis, ah, mon Dieu, je suis vraiment rendu vieux. Mais non, c'est pas grave, c'est juste... Faut bien que les gens vieillissent parce qu'il y en a qui... faire de la place aux plus jeunes. J'allais rapidement, hein, les éphémérides du jour, l'éphémérides du jour. J'aime beaucoup la fête de Sainte-Prudence. C'est un prénom très, très commun dans des pays, beaucoup de pays africains aussi, où il y a la foi catholique. Prudence est un nom assez populaire. Alors, c'est une vierge et martyr du 4e siècle, vénérée pour sa dévotion et sa résistance aux persécutions païennes. Mais moi, je pense toujours, par exemple, prudence, la patronne de la prudence. Il faut qu'elle soit là de temps en temps quand on est au volant, n'est-ce pas? Bon, allez, on continue. En Angleterre, hein, en 1994, rappelez-vous, c'était l'inauguration du tunnel sous la Manche. Ça fait un bout quand même que c'est là. Il y avait la sortie en 2004 du film Mean Girls, mais bon, ça vaut juste une mention. Et en 1758, Maximilien de Robespierre, avocat et homme politique français, figure centrale de la Révolution française et de la Terreur. Il a été l'un des principaux architectes de la République jacobine. Et puis, en 1915, c'était la naissance d'Orson Welles, réalisateur, acteur, scénariste américain. On se rappellera de Citizen Kane. Et puis, en 1961, tiens, lui, il a 65 ans aujourd'hui, George Clooney. Et ben voilà. Et puis, on va aller faire un petit tour en musique.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On va regarder un petit peu ce qui se passe dans l'actualité aujourd'hui. C'est quand même assez inquiétant. Alors, le Devoir ce matin et presque tous les journaux, d'ailleurs, qu'on en parle, la crise sanitaire qui s'intensifie à bord du navire de croisière MV Ondius, immobilisé au large du Cap-Vert. Une nouvelle évacuation médicale a eu lieu aujourd'hui vers l'Allemagne pour un passager considéré comme un cas contact, alors que trois autres personnes ont succombé au virus. On parle ici du antivirus là, qu'on a trouvé à bord. L'Organisation mondiale de la santé confirme qu'il s'agit de la souche Andes, une souche rare de antivirus capable de se transmettre entre humains. Trois autres cas suspects ont été évacués vers les Pays-Bas ce matin, tandis qu'un passager est toujours hospitalisé en Suisse. Le navire, qui compte près de 150 personnes à son bord, doit maintenant faire route vers les îles Canaries pour une opération de décontamination complète. La souche Andes du hantavirus, identifiée par les autorités sud-africaines et suisses sur les passagers du navire, est la seule connue pour sa capacité de transmission interhumaine. Dans Le Devoir et dans presque tous les autres médias, évidemment, on parle donc à Québec, la nouvelle première ministre Christine Fréchette a profité de l'étude des crédits budgétaires pour réaffirmer ses priorités en tête de liste, avec en tête de liste donc le fameux troisième lien à Québec. Malgré les critiques de l'opposition, la première ministre soutient que le projet de tunnel entre Québec et Lévis demeure une nécessité pour la sécurité économique de la région. Elle lie désormais ce chantier à l'ambition énergétique de la province, soulignant que les besoins de transport pour les grands projets industriels justifient la nouvelle infrastructure. Outre le transport, Mme Fréchette mise sur l'accélération de la production d'électricité pour soutenir la décarbonation de la province. Elle prévient que le Québec doit agir rapidement pour ne pas perdre son avantage concurrentiel face aux investissements étrangers, notamment dans le secteur de la filière batterie. Elle veut aussi faire adopter une loi pour prolonger l'invocation de la clause de dérogation sur les lois de la protection du français. Puis on pense que c'est un piège qu'elle tend au chef de l'opposition, Charles Millard, du Parti libéral, qui a beaucoup tergiversé sur la question. La Presse Plus. Le Québec perd aujourd'hui l'un des plus grands bâtisseurs de son État moderne, Claude Morin, s'est éteint à l'âge de 96 ans. Bras droit de Jean Lesage lors de la Révolution tranquille, puis ministre influent sous René Lévesque, il a été l'architecte de la diplomatie québécoise et l'un des penseurs de la stratégie souverainiste. On se rappelle, souverainiste, on parle à cette époque-là de l'étapisme. C'est un mot qui... Mathieu, t'es trop jeune pour te rappeler de ça. Voilà. Ombre à son parcours, toutefois, ben oui, il a été informateur de la Gendarmerie royale du Canada dans les années 1970. Certains de ses défenseurs disent qu'il l'a fait pour obtenir en échange des informations sur l'adversaire référendaire. Claude Morin est né en 1929 et a exercé des fonctions de ministre des Affaires intergouvernementales du Québec de 1976 à 1982. Dans la presse, Rideau Hall s'apprête à accueillir une nouvelle occupante de marque. Le premier ministre Mark Carney a annoncé que l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, sera la prochaine gouverneure du Canada, générale du Canada. Juriste de renommée internationale, Mme Arbour a marqué l'histoire comme procureure en chef des tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, avant de devenir haute commissaire des Nations unies aux droits de la personne, aux droits de l'homme, qu'on dit là-bas. Elle succède ainsi à Mary Simon et devient la 31e personne à occuper cette fonction de représentant de la monarchie au pays. Son assermentation officielle aura lieu au cours des prochaines semaines à Ottawa. Louise Arbour a été nommée juge de la Cour suprême du Canada en 1999, poste qu'elle a occupé jusqu'à sa démission en 2004 pour rejoindre les Nations unies. Et puis dans Le Devoir ce matin, ben, au Royaume-Uni, les récentes élections locales marquent une percée historique pour le Parti vert. La formation écologiste a réussi à recueillir, à faire élire plus de 800 conseillers à travers le pays, un record absolument absolu d'ailleurs pour le mouvement. Cette progression s'est faite aux dépens des deux grandes formations traditionnelles, les conservateurs et les travaillistes, particulièrement dans les zones urbaines et les bastions universitaires. Avec ce résultat, les Verts s'installent désormais comme une force politique incontournable à l'échelle locale, participant à la gestion de plusieurs conseils municipaux dans des régions clés d'Angleterre. Lors des élections locales de 2024, le Parti vert d'Angleterre et du Pays de Galles a obtenu un gain net de 74 sièges, portant donc ce total à 818 conseillers municipaux. Et en fait, on compare même à cette montée de Mandani à New York. On va aller en musique.
Partout, ce qui est dans ta tête et puis planté dans ton cou. Vraiment, j'étais fou. Vraiment, j'en ai manqué des bouts. Caniveau et vos, tous deux au printemps débordent. Le silence est tendu comme un piano plein de cordes. Tout ça pour des chansons. Quand j'étais dans tes bottines, je partais pour. Aucun souci si tu préfères, si t'aimes mieux laisser faire. Pour une fois qu'on parle à cœur ouvert. Mais si tu pars, retourne-moi comme un cadeau. Fuck, j'ai eu du fun d'eau. Hors d'haleine étendue sur le dos. Est-ce que tout est beau? Et j'étais honnête. J'étais honnête. J'étais honnête. J'étais honnête. Honnête. La folie est salutaire avec la bonne partenaire. Et Dieu qu'on fait la part, tout ce qu'on trouve à dire, le pire est sa suite. Ça tiendrait où dans l'algorithme? Et j'espère que ce chemin se rend à la mer. Du pied dans le sable, c'est plus confortable pour écouter. Comme ces tremblements nous ressemblent, alors je serais déçu que tu préfères. Que t'aimes mieux laisser faire. Pour une fois qu'on parle à cœur ouvert. Mais si tu pars, retourne-moi comme un cadeau. Fuck, j'ai eu du fun d'eau. Hors d'haleine étendue sur le dos. Est-ce que tout est beau? J'étais un J'étais un
Simon Larose est honnête.
Mais je vais aller vous lire une partie d'un texte aujourd'hui qui paraît dans la presse. Mais c'est au sujet de mon ancienne collègue avec qui j'ai travaillé longtemps et qui annonce qu'elle va quitter le téléjournal. Je vous parle donc de Céline Galipeau. Après presque 18 ans à la barre du téléjournal de fin de soirée, Céline Galipeau va donc passer le flambeau. Elle se voit confier l'animation d'un nouveau magazine qui portera sur l'actualité internationale. En entrevue avec la presse, la chef d'antenne assure qu'il s'agit de sa décision. Alors, je la cite, « Je n'étais pas tanné du téléjournal. Ce n'était pas dans mes plans à court terme. Je me voyais y être encore l'année prochaine et l'autre d'après, au moins. Mais c'est une offre que je ne pouvais pas refuser », explique Céline Galipeau. « Tenir la barre du téléjournal 4 soirs par semaine s'accompagne d'un rythme de travail effréné. Mais Céline Galipeau est un peu plus claire. Non, elle n'a pas accepté ce nouveau défi pour ralentir la cadence. Je la cite, « Si ça se trouve, je vais travailler encore plus fort qu'avant. » En fait, elle s'amuse de dire ça. Et je trouve ça intéressant parce qu'on le note, Céline va avoir 70 ans l'année prochaine. Puis qui est très en forme et qui travaille très fort. Moi, pour avoir travaillé avec elle, je peux vous le dire que c'est quelqu'un de très rigoureux. Alors, longtemps correspondante à l'étranger, Céline Galipeau militait à l'interne depuis plusieurs années pour le retour en ondes d'un magazine sur l'actualité internationale. Depuis la fin, en 2013, d'Une heure sur Terre, qui était alors animée, on se souvient, par Jean-François Lépine, il n'y avait plus aucune émission au sein du diffuseur public exclusivement consacrée à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il est vrai que depuis qu'elle a pris les commandes, le téléjournal de fin de soirée a fait une place plus importante à ces questions, mais pour elle, l'international mériterait une émission à part entière. Elle a le sentiment qu'elle serait passée à côté de quelque chose si elle avait décliné l'offre de piloter ce nouveau rendez-vous hebdomadaire d'une heure. Dans un téléjournal, il faut quand même parler de Christine Fréchette et de ce qui se passe en Acadie et ce qui se passe en Alberta. C'est compliqué d'expliquer en détail un dossier aussi complexe que le nucléaire iranien, par exemple. Alors, avec cette nouvelle émission, on va avoir plus de temps pour le faire, illustre Céline Galipeau, qui ne sait que depuis un mois environ qu'elle animera la nouvelle émission à l'automne. Celle-ci sera présentée les vendredis à 20h sur ICRD. Une rediffusion est prévue le dimanche à 17h sur ICI Télé. Pour l'instant, tout reste à bâtir. Il n'y a même pas de titre d'émission, mais déjà, Céline Galipeau promet que l'expertise des correspondants étrangers de Radio-Canada sera mise à contribution. Cette nouvelle émission pourrait être l'occasion de diffuser des reportages sur le terrain plus longs que ceux que l'on a l'habitude de voir dans les bulletins de nouvelles. Et pour le moment, bien, on n'a toujours pas décidé qui sera le ou la remplaçante de cette émission de Radio-Canada. Et il faut le dire, hein, Céline Galipeau travaille depuis 42 ans à Radio-Canada. Bien, bon, on lui souhaite une bonne fin de mandat au téléjournal cette année, puis bon succès pour la prochaine émission.
Ce soir, nous écrivons pour établir la communication avec d'autres qui essaient d'établir la communication avec d'autres qui essaient. Nous avons tout essayé. Nous avons eu peur que quelque chose se passe. Nous avons retardé tous les départs et nous voilà tous sur le pont, terrifiés par les algues que nous ne voyons même pas bouger tellement c'est dans le fond. Nous avons tout essayé. Il y a sûrement un sens à tout cela, mais il faut dire que nous manquons de pieds marins, que nous ne manquons de rien. Nous avons tout essayé, nous avons tout essayé, nous avons tout essayé, nous avons tout.
Ce soir, nous écrivons pour établir la communication avec d'autres qui essaient d'établir la communication avec d'autres qui essaient. Nous avons tout essayé. Nous avons eu peur que quelque chose se passe. Nous avons retardé tous les départs. Et nous voilà tous sur le pont, terrifiés par les algues que nous ne voyons même pas bouger, tellement c'est dans le fond.
Thank you.
Il y a sûrement un sens à tout cela. Mais il faut dire que nous manquons de pieds marins. Que nous ne manquons de rien.
C'était Kinka et la chanson Ce soir.
Et moi, j'ai le temps de vous dire qu'on va parler d'actualité pan-canadienne en français avec Julien Caillouette après la pause. Malheureusement, nous avions parlé de l'école Enfant Jésus, là, Enfant Jésus du plateau Mont-Royal. Malheureusement, il y a un contretemps. On n'aura pas cette entrevue. On fera ça une autre fois. Je vous rappelle aussi qu'à la météo, ben, c'est encore un peu pas mal beaucoup pluvieux, selon les endroits, mais on se réchauffe, là. On y arrive, et puis la pluie, c'est pas mauvais, ça fait pousser les arbres, ça fait pousser les fleurs, et ça nettoie aussi, surtout. À tout de suite!
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Moins facile de fuir qu'on pense, dans l'inconfort tu compenses. Tu commences à t'en sortir, mais tu retombes dans ce qui te condense. Ça vient toujours de quelque part, mais quelque part ça vient de toi. Ça fait tomber le décor, d'accord, mais c'est pour te faire voir ce que tu te fais croire. Tu voudras souvent la nier, la cacher dessous les billets. Mais la vie est faite pour que l'évidence ne puisse pas être évitée. Chaque douleur est comme un langage, chaque malheur est un message. Chaque humeur est de passage et chaque peur te rend plus sage. Tout ça fait partie de la vie, mais la vie fait partir tout ça. Plonge au fond de ce que tu fuis, le remède se cache là. C'est toi la source. C'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vit. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vit. C'est vrai que parfois ça frappe fort, ça percute, ça perfore, ça fait éclater tes rêves que t'avais pas rêvé encore. Ça te fait arrêter des projets qui n'étaient pas des projets. Ta confiance est dans les déchets, tu veux la retrouver mais c'est un projet. Le Brésil est dans la ville pendant que toi t'es en février. Les gens s'amusent, c'est décalé, décalé dehors, c'est égaré. Pour refaire ton compte en banque, qu'on se comprenne, qu'on s'entende. Que t'en gang ou tant que t'en veux, y'a jamais rien qui comble en manque. Ton silence d'aujourd'hui, c'est l'écho de ton criard. Offre-toi un temps de répit, le temps de t'en faire une crinière. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre. À partir de toi, le départ de ce qui t'arrive. Toi t'es libre de faire tes choix, mais t'as pas le choix de faire des choix. Entre toi qui vois ton ombre et toi qui vois ton éclat. Entre toi qui tombe et sombre et toi qui ne baisse pas les bras. Oui c'est ça, oui je te vois. Tu te lèves, tu redresses les chines. Un flambeau dedans l'aura, un fighter dedans le ring. T'as des trésors au bout des doigts, t'as la Shakti, t'as le hara. T'as le mojo dans la peau, t'as la puissance qui s'affine. T'as la rivière qui se libère, t'as la lumière dans la rétine. T'as le tigre, t'as la voix, mais dis-moi toi. Est-ce que tu vois? C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre. C'est toi la source, c'est toi la source, c'est toi la source qui donne, qui offre, qui vibre.
Mais Mathieu Lippé, sa chanson, c'est toi, la source.
Allez, on va aller à la source maintenant des informations francophones du Canada. On va rejoindre Julien Caillouette, qui est rédacteur en chef chez Franco Presse. Allô, Julien.
Bonjour, Denis.
Écoute, je disais tantôt qu'il faisait... c'est encore froid hein, chez vous?
Oui, c'était pas chaud. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai envoyé une petite vidéo à mon équipe qui est basée à Ottawa et Montréal pour leur montrer qu'il neigeait encore à Sudbury mercredi dernier, si ma mémoire est bonne.
Aïe, ouais.
Ça n'a pas resté, là. Puis non, là, il fait plus chaud depuis la semaine dernière.
Bon, en tout cas, on va espérer, là, parce que il me semble que ça en a besoin de l'été. Là, ça traîne un peu. Cela dit, on va aussi parler de la réalité de l'immigration francophone au Canada qui n'est pas toujours à la hauteur du rêve.
On entend souvent, et de plus en plus souvent, parler des commentaires d'immigrants et d'immigrantes francophones en milieu minoritaire qui soulèvent que la réalité sur le terrain, quand ils arrivent dans les communautés, n'est pas tout à fait comme on leur avait vendu avant leur arrivée. C'est pas tout le monde qui dit ça, mais il y a une partie qui le dit. Du côté des intervenants au Canada là, qui accueillent ces gens-là, on se rend compte qu'il y a différents niveaux de préparation par rapport à plusieurs éléments, là, surtout la langue. La météo, une des intervenantes nous dit que la Terre-Neuve et l'Imprenteur, ça arrive, qu'ils voient des gens arriver sans manteau d'hiver et sans bottes d'hiver aussi. Puis aussi par rapport à différents autres besoins, comme le coût du logement, puis ces choses-là. Ce que tout ça démontre, c'est que c'est en partie que le gouvernement et d'autres intervenants ne sont pas toujours honnêtes dans leur tentative d'attirer des immigrants francophones au Canada. Il y a certaines choses qu'ils ne présentent pas correctement. Ce que les intervenants sur le terrain nous disent, c'est qu'il y a beaucoup de recrutement qui est fait par les employeurs directement, qui vont chercher des employés à l'étranger à travers des programmes du gouvernement quand même, mais on ne sait pas ce qu'ils disent ces candidats-là quand ils vont chercher des francophones, surtout. Du côté des provinces, entre elles, il y a une compétition pour attirer davantage de francophones, donc il y a une incitative à présenter les choses de la plus belle façon possible. Puis, donc, souvent, ce qui manque aussi, on dit de la plus belle façon possible, c'est qu'on ne dit pas toujours, on parle du bilinguisme au Canada, mais on ne l'explique pas bien. On ne dit pas qu'il faut quand même connaître l'anglais dans plusieurs provinces, dans plusieurs régions. Il y a quand même un vent de changement. Les organismes et le gouvernement ont compris qu'il y a un problème avec ce message-là. Parce que quand les gens arrivent sur place, parfois, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la... Parfois, ils vont plutôt s'intégrer dans la communauté anglophone parce qu'ils sont désenchantés par la situation. Ils ne voient pas l'avantage du français directement. On ne leur dit pas où trouver les services en français. Puis s'ils se retrouvent dans un prestataire de services anglophones pour les immigrants, bien, eux ne les renvoient pas nécessairement aux services francophones qui sont disponibles dans la même communauté. Donc, être honnête, mais c'est important pour la rétention parce que pour augmenter la proportion de la communauté francophone, c'est ça qui est dans l'objectif. Puis il faut que les immigrants-là sachent dans quoi ils s'embarquent puis qu'ils soient bien accueillis et bien dirigés sur place.
Ouais, pour avoir vécu, moi, à l'extérieur du Québec, j'avoue que quand je vivais à Edmonton, si je ne parlais pas anglais, ça aurait été un peu compliqué. C'est comme ça, c'est la réalité.
Hein. C'est ça.
Alors, le Congrès mondial acadien 2024 a généré plus de 16 millions de dollars en retombées.
Le rapport a été présenté par le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse il y a deux semaines, je crois. Les 16 millions de dollars ont surtout été profités aux régions de Clare et d'Argyll en Nouvelle-Écosse. Là. C'est sur la pointe sud-ouest de la Nouvelle-Écosse où a eu lieu la majorité des activités. Selon le décompte, il y aurait eu 12 000 participants pendant les 9 jours d'activité. Là-dessus, il y en a 6 300 qui venaient de l'extérieur de la région. Sur ces 6 300-là, c'était 16 % qui venaient du Québec et 9 % de la Louisiane. Chaque visiteur aurait dépensé 722 $ dans la région. Selon les organisateurs, 722 $ en moyenne, évidemment, selon les organisateurs du Congrès mondial acadien, c'est des bons arguments pour encourager les gouvernements à investir dans des événements culturels importants comme ça. Puis la présidente de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, Denise Comeau, elle, je rappelle que aussi le Congrès a créé une espèce de momentum en Nouvelle-Écosse qui a mené à d'autres gains pour la francophonie. Entre autres, il y a eu l'adhésion de la Nouvelle-Écosse à l'Organisation internationale de la francophonie comme observateur. Il y a eu une nouvelle loi sur les services en français et la création du mois du patrimoine acadien.
Oui, ça avance hein, quand même. Une Montréalaise obtient une réforme des procédures de l'Agence des plaintes contre les forces de l'ordre en Ontario.
histoire intéressante, c'est qu'il nous est raconté dans Le Voyageur. L'histoire commence le 4 janvier 2023, alors qu'une dame appelée Marianne Goupil visite un ami à Toronto. Pendant qu'elle est là, il y a des agents de police qui entrent chez son ami discrètement. Jusqu'à aujourd'hui, elle entre dans l'entrevue avec Le Voyageur, Mme Goupil n'est pas être capable de dire pourquoi la police était dans l'appartement, pourquoi ils étaient là. Puis elle a été terrorisée. Là, on lui a même diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique à cause de cette expérience-là. Elle a donc décidé de porter plainte à l'Agence des plaintes contre les forces de l'ordre. Ça, c'est une organisation créée en Ontario il y a quelques années pour gérer les plaintes contre les forces de l'ordre pour que ce soit pas fait par les forces de l'ordre elles-mêmes. C'est donc indépendant. Elle a fait sa plainte en français, puis au début, les premiers contacts se sont déroulés en français, puis tout allait bien. Mais à un moment donné, les réponses ont commencé à arriver, à lui arriver en anglais. Mme Goupil est bilingue, elle vient du Nouveau-Brunswick, elle a donc continué à communiquer en anglais, jusqu'à ce qu'on lui propose, finalement, de faire le rapport final en anglais. Là, elle n'était pas d'accord, elle a dit non, je veux l'avoir en français, puis on lui a répondu OK, mais ça veut dire qu'on ne peut pas vous dire quand il va être prêt, ça va être à une date indéterminée. Cette réponse-là lui a fait réagir. Elle a porté plainte à l'Ombudsman de l'Ontario, qui lui a mené son enquête et a donné raison à Mme Goupil pour avoir ses services en français. Donc, ça a mené à ce que l'agence ait émis des nouvelles directives pour que les services en français soient assurés tout au long d'un processus de plainte, puis dans des délais raisonnables, contrairement à ce qui allait lui arriver. Donc, la leçon dans tout ça, c'est porter plainte. Ça peut porter fruit et être bénéfique pour les autres.
En effet, l'Alberta ouvre la porte à de nouvelles écoles de langue française.
On dirait que l'Alberta veut démontrer qu'il prend au sérieux son engagement de faire de 2026 l'année de la francophonie dans la province. Le ministre de l'Éducation a annoncé il y a quelques semaines le financement de 3 écoles de langue française en Alberta. Il y a une école déjà existante qui va pouvoir avoir un nouvel édifice parce qu'ils ont besoin de plus de place. Puis, il va y avoir 2 nouvelles écoles ailleurs dans la province. Pour la directrice du conseil scolaire du Centre-Est, où seront implantées ces écoles-là, c'est le fruit d'un travail de longue haleine, mais elle dit aussi sentir avoir l'oreille attentive du ministre en ce moment. Le journal Le Franco, dans son article, rappelle que que ça n'a pas toujours été le cas en Alberta et que c'est même grâce aux franco-albertains, c'est les francophones de partout au pays, ont le droit de gérer leur éducation. C'est des parents franco-albertains qui avaient fait une poursuite contre le gouvernement qui a mené à la cause Mahé jusqu'en Cour suprême. Puis c'est cette victoire-là au début des années 90 qui a forcé toutes les provinces à réorganiser leur système d'éducation pour laisser les francophones gérer leurs écoles.
Hey, je vais faire une anecdote. Je vais encore refaire ce qu'on appelle, quand les gens disent, je fais du name dropping. Tu sais, Julien, j'étais là, j'ai couvert cette cause-là en Cour suprême. À l'époque, j'étais journaliste à Radio-Canada en Alberta. Il faut dire que, mon Dieu, je me date un peu, là.
Oui, avec les dates que j'ai données.
Oui, mais en fait, c'était vraiment incroyable. C'était des personnes, hein, des parents, des personnes tout à fait normales, là, pas des gens avec des grands diplômes et tout ça. Tu sais, il y avait leur éducation, mais ils n'étaient pas juristes. Ils ont été, ils ont été appuyés. Rappelons-nous, c'est un ancien juge de la Cour suprême aussi qui a pris sa retraite. Alors, il y a eu beaucoup de travail à faire pour avancer. Puis même après le jugement, fallait tirer souvent par la corde, par la laisse pour que les choses se fassent. Mais bon, ça semble avoir évolué.
ça a évolué, mais on voit avec d'autres causes en Colombie-Britannique, qui est le territoire du Nord-Ouest, que c'est souvent des combats à reprendre parce que les provinces sont quand même réticentes à donner certains, surtout le financement est dur à avoir. Puis, on a fait des articles aussi, c'est comme tu dis, c'était des gens normaux, puis c'est c'était stressant et très demandant comme tâche et beaucoup sont fatigués après.
Ah oui, mais heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque parce qu'ils auraient trouvé ça dur. Cela dit, je vais préciser aussi que tout ce qui a rapport à l'éducation en français, les droits fondamentaux, on ne peut pas évoquer la clause de dérogation pour se soustraire à ses obligations. Alors ça, c'est juste au cas où les gens se posent la question, parce que c'est beaucoup dans les médias présentement, mais pour le droit à l'éducation en français ou en anglais, en langue minoritaire, on ne peut pas évoquer la clause de dérogation. C'est illégal. C'est dans la Constitution. Alors, excuse-moi, j'ai changé d'étaler mon grand savoir. Je vais arrêter ça. Des communautés de la recherche et des communautés à la recherche de solutions durables pour la sécurité alimentaire dans le Nord.
Oui, je vous parle encore de sécurité alimentaire dans le Nord. Je l'avais fait la semaine passée, mais cette fois-ci, on va faire du point de vue de la recherche de solutions. L'enquête canadienne sur le revenu a déterminé que l'insécurité alimentaire chez les Inuits et les peuples autochtones du Nord est la plus élevée de toutes les populations autochtones dans les pays développés. Donc, c'est peut-être pour ça que le gouvernement fédéral a investi dans des projets pour contrer l'insécurité alimentaire dans le Nord du Canada. Du côté du Nunavut, on parle dans l'Aquilon d'une recherche qui est en cours pour faire la liste des obstacles pour obtenir de la nourriture dans le territoire. La deuxième étape de ce projet-là, ça va être la création d'une soupe populaire qui fera tomber ces obstacles-là qu'on aura identifiés autant que possible, puis qui, dans le but d'utiliser aussi les aliments qu'on peut trouver sur le territoire. Le projet en question fait la distinction entre les concepts de sécurité et de souveraineté alimentaire. Dans le cas de la souveraineté alimentaire, on inclut là-dedans une dimension culturelle et d'équité. On en prend davantage en compte dans l'élaboration des solutions. Encore au Nunavut, il y a un autre projet qui étudie si la vente en ligne de produits alimentaires peut influencer les prix. Tout ça pourrait mener à d'autres modèles de distribution si on trouve des voies de sortie des modèles traditionnels qui pourraient être plus avantageux. Puis finalement, au territoire du Nord-Ouest, la première nation de Sambaqué a un projet appelé « De la terre, du jardin et du magasin », les voies menées par les Dénés pour la sécurité alimentaire. Donc, dans leur cas, ça fait un bout que le projet avance depuis 2023. Ils sont dans une deuxième étape qui va aller jusqu'en 2028. Puis, après avoir identifié donc les problèmes dans la première étape, ils sont rendus à renforcer les savoirs culturels traditionnels, y compris l'apprentissage de la langue, par l'intermédiaire des cours de cuisine intergénérationnels, puis l'accès à une épicerie communautaire. Dans leur projet, ils ont construit un centre qu'ils appellent le centre de sécurité alimentaire, qui contient une cuisine industrielle mobile, et des espaces de stockage qui permettent de mieux utiliser et de préserver les cultures locales et les recettes ancestrales aussi.
Bien, c'est bien intéressant tout ça. Merci beaucoup, Julien Carivouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse.
Ça m'a fait plaisir. À la semaine prochaine.
À la prochaine.
I'm not afraid to die.
Jonathan Pearson et sa chanson « À présent ».
Je vais juste faire un petit ajout à ce qu'on vient de parler là, dans la chronique avec Julien Caillouette. Je vous parlais donc de ce jugement de la Cour suprême en 1990, le 15 mars 90, quand même, hein? Ça fait 36 ans de ça. La personne qui avait amené la cause en cours, elle est encore juge à la Cour suprême maintenant. Elle s'appelle, c'est une juge franco-albertaine, Marie Moreau. Une personne, on s'y attendait il y a 29 ans, quand, il y a 36 ans, c'est ça que je disais, il y a 36 ans quand je l'ai interviewée, on se disait, elle va devenir une grande juriste. Ben oui, alors Maître Marie T. Moreau à l'époque, qui est devenue juge de la Cour suprême du Canada, juge franco-albertaine, elle parle français, ouais. Et c'est elle qui avait mené cette cause devant la Cour et qui a gagné et qui a forcé les écoles à donner, qui disait donc que le droit de gestion scolaire était inclus dans l'obligation des provinces d'offrir des écoles françaises. Parce que dans le temps, on faisait des écoles françaises, mais elles étaient gérées par des conseils scolaires anglophones. C'est un petit peu compliqué d'obtenir des choses qu'on veut dans ce temps-là. Alors voilà, c'était le petit point que je voulais faire. Et puis, si jamais le juge Moreau un jour nous écoute, bien, on la salue. On serait bien content de la revoir. On va faire un petit tour maintenant du côté de Washington. Dans le Devoir, le ton se durcit radicalement entre Washington et Téhéran. Donald Trump a lancé un ultimatum direct aux dirigeants iraniens, exigeant la négociation immédiate d'un nouvel accord sur le programme nucléaire et balistique, sous peine de conséquences militaires. L'ancien président, en pleine campagne électorale, affirme que la stratégie de pression maximale doit être intensifiée pour neutraliser l'influence régionale de l'Iran. Cette sortie survient alors que les tensions au Proche-Orient atteignent un niveau critique, provoquant de vives réactions dans les capitales européennes qui craignent une escalade incontrôlable dans le golfe Persique. Pourtant, on annonce qu'il y aurait peut-être une entente. On verra si cette entente sera conclue, parce que c'est plusieurs fois qu'on nous l'annonce et que ça ne se produit pas. Et puis dans Radio-Canada.ca du 4 mai, la ville de Québec dresse un bilan encourageant de sa première année de mise en œuvre de son plan d'accessibilité universelle. Avec plus de 300 interventions réalisées à travers le territoire, les résultats sont visibles. Aménagement de parcs avec du mobilier adapté, installation de rampes d'accès aux piscines municipales et mise aux normes de plus de 200 arrêts de bus. Si les organismes saluent les avancées concrètes, ils soulignent quand même que le chemin est encore long. Des défis persistants comme la sécurité aux intersections et l'efficacité du déneigement des trottoirs demeurent des obstacles majeurs pour les citoyens à mobilité réduite. La Ville s'engage toutefois à poursuivre ses efforts avec son plan d'action 2025-2030 qui prévoit des investissements soutenus dans les infrastructures sportives et les bâtiments publics. Le budget annuel moyen consacré par la Ville de Québec au projet d'accessibilité universelle se chiffre à environ 2,5 millions de dollars.
À force de chercher des nouvelles raisons d'aimer, ça part de son sens. Tu voulais valser toute la nuit, mais personne danse. Non, c'est pas de ta faute. Le monde est fait pour que tu manques d'amour des autres. L'amour des autres comble ton bonheur. Un instant et s'estompe, pas moins d'une heure. De retour à la maison, le vide est toujours aussi grand. Y'a rien dans le salon, sauf des assiettes en carton. Pour souper vite fait, t'as pas le temps, faut sortir au bord. Remplir le vite fait, la veille quand t'es sorti pour boire. C'est pas ton genre, non. C'est pas ton genre, non. C'est pas ton genre, non, 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 non. C'est pas de ta faute. Le monde est fait pour que tu manques d'amour des autres. L'amour des autres comble ton bonheur. Un instant et s'estompe, pas moins d'une heure. Que t'enrages à l'idée d'être facilement dispensable, qu'on te jette en bas d'immeuble sans étage
et que même au sol, personne, non, personne ne te regarde dans les yeux.
L'amour des autres, une chanson d'un groupe de Saint-Jean-sur-Richelieu, Méloire.
Un petit temps, un peu le temps de parler de météo, hein, j'en parle parce que c'est... Il pleut, puis ça fait du bien de savoir que, ben, on arrive à l'été, là. Faut pas se décourager. Les journées, en passant, le soleil se couche après 20 heures le soir. Ouais. En même temps que moi. Bon, le Québec, donc, on annonce de la pluie intermittente pas mal partout, qui devrait cesser en après-midi, peut-être un peu plus tard dans l'Est, et les températures demeurent quand même autour de 8-10 degrés. C'est pas beaucoup, mais ça va s'améliorer, comme je le dis. C'est à peu près la même situation en Ontario, mais plus chaud, 10 à 12 degrés dans le sud et 9 degrés dans l'Est. Par contre, dans le nord, c'est frais. Les provinces atlantiques, ben, c'est les mêmes conditions qu'ici, avec la pluie et tout ça, mais un petit peu plus chaud. Puis le soleil, ben, il se trouve dans l'ouest, dans les provinces des Prairies et en Colombie-Britannique. On se retrouve après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Tu collectionnes des hectares de temps. Tu clôtures les heures dans le grand lit. Tu pars. Je sillonne tes romans. J'arrose tes fleurs. Dans ton appartement où je me prépare, parmi les pivoines, je tu pars. Tu fais des envols d'éléphants. Tu miroites nos cœurs d'un verbe élégant. De tes pages lentement, je me régale. Je veux rien savoir. Ooh.
La chanson « Parmi les lilas » de Flavie Léger-Roy.
Alors, dans la presse aujourd'hui, face aux ravages de la guerre en Ukraine, la technologie bionique... j'ai pas le bon texte. Voilà, on y va. Alors, prothèse bionique connectée aux muscles et rééducation de pointe en Ukraine, un centre dernier cri repousse les limites de la médecine afin d'aider les soldats amputés à retrouver une autonomie quasi semblable à celle d'avant la perte de leurs membres. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent handicapées, amputées là, dans la guerre. Alors, un faisceau laser de couleur rouge sang vient chatouiller la cicatrice de Denis, un patient de 36 ans, amputé d'une jambe et d'un bras à cause d'un éclat de but dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Stoïque, cet ancien soldat porte des lunettes de protection opaque pour ne pas se brûler la rétine. Cette séance, dirigée par un thérapeute, sert à ramollir la peau durcie autour de la balafre qui orne son épaule droite. Après l'intervention chirurgicale, nous devons attendre près de 8 semaines que la plaie soit bien cicatrisée pour commencer les séances de laser. Le but de ce processus est d'améliorer la guérison de la plaie et de rendre la peau plus molle pour qu'on puisse y insérer un implant en titane jusqu'à l'os, spécifie Sven, le praticien, au beau milieu d'une salle du centre de réadaptation Titanovi. Dans une pièce annexe, 4 colosses se font masser pour activer la circulation sanguine dans leurs membres fraîchement amputés. La spécificité de ce centre unique au monde, ouvert en fin 2024, est d'accueillir 150 anciens soldats privés de un ou plusieurs membres à cause de la guerre. 40 d'entre eux y sont logés toute l'année. Les autres viennent en ambulatoire. Pour ces hommes qui ont en moyenne 35 ans, il est proposé d'expérimenter des implants dits intelligents afin de pouvoir à nouveau marcher sur deux jambes et de se servir de leurs doigts comme avant. Plus que des prothèses classiques, ce centre propose de fixer dans l'os du membre amputé une tige en titane sur laquelle le patient pourra visser un nouveau bras, une jambe ou encore une main réagissant directement aux contractions musculaires. Une fois la prothèse fixée, le titane agit comme un transmetteur d'informations entre le corps et le nouveau membre bionique. J'enfile ma jambe et je détache mon bras, je fais ce qui me chante, s'exclame Gleb Blenia en pleine démonstration. Le jeune homme a bénéficié de cette opération d'un nouveau genre en 2025, la toute première prothèse bionique du pays qui a été posée sur un vétéran en mai 2023. Comme la plupart des estropiés du centre, Gleb Blenia s'est porté volontaire pour défendre son pays face aux troupes russes après l'invasion de 2022. Originaire de la ville de Krivyi, la même que le président Volodymyr Zelensky, il suit une formation militaire de 3 semaines au Royaume-Uni avant d'être déployé dans les tranchées impitoyables du Donbass. La nuit de décembre 2023, un drone russe le surprend en mission avec 3 de ses camarades. Tous meurent sur le coup de la frappe, sauf Gleb Blenia, qui réussit à poser des garrots sur sa jambe gauche et son bras droit seul. Pour cet amateur invétéré de la trilogie Star Wars, sa prouesse de survie n'a rien envier à Luke Skywalker ou Obi-Wan Kenobi. Son bras valide est quant à lui entièrement tatoué en référence à la fameuse saga de George Lucas. Une fois l'hémorragie stoppée, j'ai réussi à envoyer mon emplacement à l'équipe médicale. Après m'avoir récupéré, le médecin du point de stabilisation m'a dit que si je voulais vivre, il fallait me couper la jambe et le bras, se souvient-il. Après l'amputation, il se réveille à l'hôpital de Dnipro avant d'être transféré dans une clinique spécialisée en traumatologie superhumans, qui est donc située à Lviv et dans l'ouest du pays. Dans ses murs, il se sent oppressé et ne trouve pas chaussure à son pied. Alors, la prothèse classique étant inconfortable, celle en plastique dur notamment, elle tombait et je transpirais dedans. Je ne pouvais donc pas marcher bien longtemps. Pendant plusieurs semaines d'errance médicale, la dépression le guette jusqu'au jour où un médecin lui parle de nouvelles technologies. Ni une ni deux, il appelle le docteur de Titanovi, Vlastislav Zaporets. Hein? Et je le fais sans avoir eu le temps de pratiquer. Alors, on y va. Qui le reçoit la semaine dernière? Au total, Glenn Blenia a subi 4 opérations pour bénéficier de prothèses intelligentes. Là où les prothèses classiques échouent, les implants en titane sont un nouvel espoir pour les soldats blessés au front. Dotés de capteurs intelligents, ils permettent aux bras artificiels d'interagir directement avec le corps du patient grâce à la myoélectrique qui capte les informations envoyées par les muscles sous forme de décharge électrique. Des espaces sont ainsi consacrés à la santé mentale, sont aussi consacrés à la santé mentale comme une salle de soutien psychologique où chaque patient peut apprivoiser ses douleurs fantômes à l'aide d'un logiciel d'intelligence artificielle. Sur un écran, ils peuvent se voir ainsi que leurs membres amputés reconstitués en 3D et de nouveau attachés à leur corps qu'ils peuvent bouger dans l'espace en temps réel, une manière donc de matérialiser la douleur malgré l'absence. En matinée, donc le thérapeute en chef du centre détaille à la presse que les prothèses bioniques n'en sont qu'à leur début. Il va falloir des ajustements pour éviter les infections qui sont plus fréquentes qu'avec les prothèses traditionnelles. Par ailleurs, il est aujourd'hui impossible de courir avec ces prothèses malgré leur coût élevé. Ça coûte cher, je vais vous le dire. Il faut compter entre 130 et 160 000 $ canadiens pour un membre artificiel. Au coût très élevé s'ajoute une autonomie de batterie à perfectionner. Une utilisation massive de ces membres intelligents à ostéo-intégration devrait permettre aux scientifiques d'améliorer leur modèle de façon empirique avec notamment l'apprentissage automatique de l'intelligence artificielle qui permet à la machine de mieux comprendre les mouvements humains les plus fréquents. Mais un travail titanesque les attend. L'Ukraine compterait déjà près de 120 000 amputés de guerre selon les estimations les plus larges. Dans le contexte de... En fait, juste pour vous dire que les prénoms et les noms qu'on a utilisés sont pour la plupart de faux prénoms parce que dans le contexte de guerre, on veut quand même assurer la sécurité de la famille. Alors voilà, c'est une histoire quand même triste de cette guerre, mais bon, qui peut-être aura des conséquences pour plusieurs d'autres dans le monde.
Jean-Baptiste ne rentre pas ce soir. Il a déchiré sa robe noire. Les nuits d'été le brûlent. La sentence est déjà prononcée et la contredanse va commencer. Au champ de Mars, quand la nuit tombe, s'il fallait que Joséphine la prenne, ne survivrai pas à sa peine. Pardonne-moi ma muse et s'approche les visages anonymes qui s'apprêtent à consommer le crime. Au champ de Mars, quand la nuit tombe, yeux verts, du loup qui viendra délivrer sa chair. C'est le diable, j'en suis sûr. L'heure n'est pas à la conversation. Viens qu'on goûte à la libération. Au champ de Mars, quand la nuit tombe, laisse-tu mon ombre toucher ton ombre. We'll be right back.
Héron qui chantait Chant de Mars.
Eh bien, un texte aujourd'hui dans la tribune qui parle donc de santé mentale. La semaine de la santé mentale bat son plein. La thématique de 2026, Rassemblons-nous Canada, encourage les gens à se rassembler et renforcer leurs liens sociaux. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le lien social désigne la façon dont les gens interagissent les uns avec les autres, couvrant les aspects structurels et fonctionnels ainsi que la qualité de ces relations. Le concept englobe les personnes avec lesquelles un individu entretient des liens, l'aide qu'il reçoit et le fait qu'il considère ces relations comme positives ou négatives. Alors, ça influence l'accès aux ressources et au soutien, améliore la santé mentale, physique et cérébrale tout au long de la vie, du développement neurologique et au vieillissement, jusqu'au vieillissement, donc en bonne santé. Pour pouvoir mettre en place et renforcer les liens sociaux, il faut identifier les causes de la solitude et de l'isolement. Une pauvre santé physique ou mentale, un statut socio-économique faible, un sentiment d'insécurité dans son quartier, les transitions de la vie comme un divorce en sont quelques exemples. Les groupes les plus affectés par l'isolement social sont les groupes marginalisés, les personnes vivant avec un handicap, les personnes autochtones, les personnes issues de minorités religieuses, racisées et issues des communautés de la diversité sexuelle et de genre. La recherche démontre que le lien social peut avoir des effets positifs sur la santé mentale. L'isolement social, en contrepartie, est associé à des risques plus élevés de dépression, d'anxiété, de psychose et d'idéation suicidaire chez les adultes. Pour l'OMS, le lien social devrait être une priorité de santé publique et dans son rapport, elle propose des stratégies multiniveaux pour y arriver, dont la promotion des stratégies intersectionnelles qui visent le renforcement des liens sociaux, plus particulièrement au sein des groupes marginalisés. Les objectifs de la campagne pour la semaine de la santé mentale sont très pertinents, surtout dans le contexte social dans lequel nous vivons. Renforcer les liens sociaux sur le plan social, scolaire et professionnel, ce travail donc est essentiel. Cependant, on ne peut pas affirmer que de penser aux personnes marginalisées, on ne peut pas empêcher de penser aux personnes marginalisées ou en rupture sociale. Elles n'ont pas choisi la marge, elle leur a été imposée et elles font partie donc de la société tout en étant tenues à l'écart. En tant que psychologue communautaire, donc la personne qui parle ici, je n'ai pas son nom, mais c'est une page d'opinion. Alors, la personne qui a écrit cette opinion, alors, ne peut pas s'empêcher, dit qu'elle reconnaît l'influence des structures et des politiques publiques sur nos vies et notre santé mentale au quotidien. Le gouvernement joue un rôle crucial dans le renforcement du lien social, surtout en ce qui a trait aux personnes marginalisées. Alors, comme société, on peut avoir une santé saine, sociale saine, alors qu'une partie intégrante de la société, les personnes plus vulnérables, les Allemands, sont relégués à la marge. On ne peut pas avoir ça. Donc, il faut vraiment faire des efforts selon cet article. Et il y a beaucoup de travail à faire et la réponse risque d'être très complexe. On peut s'inspirer de l'OMS pour la mise en place d'initiatives complémentaires aux stratégies individuelles déjà en place.
Canicule entre les eaux.
Balle perdue, une chanson de Fleur de Peau.
Alors, je vais terminer ce texte sur la semaine de la santé mentale parce qu'il y a plusieurs initiatives qui peuvent être prises pour briser l'isolement social parce qu'on pense que les liens sociaux, selon l'OMS, c'est ce qui peut aider à prévenir ou du moins à réduire les problèmes de santé mentale. Et c'est surtout les personnes marginalisées. On parle des personnes handicapées ou des personnes qui sont dans la marge, des personnes minorisées. On peut parler des minorités culturelles et des minorités de la diversité sexuelle et de genre ou des minorités capacitaires. Alors, parmi les initiatives, c'est la prescription sociale, un modèle qui a été créé au Royaume-Uni et permet aux professionnels de la santé et des services sociaux de mettre en relation des personnes vulnérables ayant besoin d'aide psychosociale avec des organismes communautaires qui peuvent leur venir en aide. La prescription sociale adresse les déterminants sociaux de la santé et vise à réduire les inégalités sociales. Diverses études démontrent des impacts positifs de cette approche, l'amélioration du bien-être, la situation face à la vie, de l'estime de soi, diminution de l'anxiété et du sentiment de solitude. Au Canada, plusieurs provinces ont des programmes de prescription sociale, CLIC social, actuellement en phase de test à Montréal, et décrit comme étant un outil facilitant l'accès des personnes vulnérables aux services communautaires. Ce programme est une initiative du Centre Eva Marsden pour la justice sociale et le vieillissement et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est le seul programme de prescription sociale au Québec présentement. Alors, on souhaite évidemment d'autres initiatives du genre qui pourraient être financées par les gouvernements, considérant les effets positifs démontrés tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Et puis, on termine en disant qu'une communauté socialement saine ne peut être fragmentée. Elle a besoin de liens sociaux forts et inclusifs. Les initiatives individuelles et organisationnelles sont essentielles, mais ne sont pas suffisantes à elles seules. Le gouvernement a une responsabilité incontournable sur ce plan. Il doit bâtir des ponts et créer des liens entre les différents secteurs de la société, incluant les groupes les plus vulnérables. C'était donc un texte pour une société en bonne santé mentale. Renforçons les liens sociaux inclusifs. Un texte qui est paru le 6 mai 2026 dans La Tribune.
Peu de sel et de sable, stop chocolaté. J'ai envie de prendre tout mon temps. Sur tes chevilles ornées, doucement t'embrasser. J'ai envie de prendre tout mon temps. C'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Une autre terre, un autre endroit. Par là, évaporer c'est déjà ça. Brûlé par le soleil mais sous la voie lactée, j'ai envie de prendre tout mon temps. Malgré ces canadaires sous nos cieux embrasés, j'ai envie de prendre tout mon temps. Par là, évaporer c'est déjà ça. Ouh, et si en plus de l'autre côté. Ouh, Walou n'a deuil à personne à prier. C'est plus acidulé, j'ai envie de prendre tout mon temps. On voit passer les ogives, estampillés quartiers, j'ai envie de prendre tout mon temps. Par là, évaporer
Courcheval et la chanson « C'est pas grave ».
Personne handicapée, consultation réclamée en Nouvelle-Écosse. C'est un texte publié aujourd'hui dans Radio-Canada.ca. Des défenseurs des néo-écossais en situation de handicap affirment que le gouvernement provincial n'a pas consulté les personnes concernées par la refonte des aides au logement et d'autres services. Victoria Levac, qui vit avec la paralysie cérébrale, et Anne-Louise Desrosiers, qui s'occupe de son fils atteint du syndrome de Williams, ont toutes deux fait part de leurs inquiétudes concernant le plan provincial après avoir entendu les représentations du gouvernement s'exprimer, les représentants du gouvernement s'exprimer devant un comité multipartite de l'Assemblée législative. La Nouvelle-Écosse a présenté son plan en réponse à une décision rendue en 2021 par la Cour d'appel mettant en évidence une discrimination systémique à l'encontre des personnes handicapées à la recherche d'un logement ou d'un soutien au sein de la communauté. La province a jusqu'en 2028 pour mettre en œuvre les recommandations du plan. Des hauts responsables du ministère des Services communautaires ont déclaré aux membres du comité qu'ils devaient s'attendre à avoir davantage de résultats au cours des deux prochaines années. Le gouvernement devrait publier un rapport d'étape annuel dans le courant du mois. Mme Levac a affirmé que des progrès avaient été réalisés depuis 2023, mais qu'elle restait préoccupée par les lacunes en matière de logement et d'aide à la personne. Elle estime que la province doit consulter directement les néo-écossais en situation de handicap afin d'éviter que des personnes ne passent entre les mailles. C'était « Personnes handicapées, consultation réclamée en Nouvelle-Écosse », un texte publié donc le 6 mai par Radio-Canada. Bien, merci beaucoup tout le monde. C'était un petit peu dernière minute tout ça, mais bon, on s'en est sorti. Et je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Merci à l'équipe Mathieu Tessier. Merci aussi à Jean-Sébastien La Liberté qui m'a aidé à faire des textes aujourd'hui, pardon, parce que c'était un peu dernière minute. Hein? Et moi, je vous, peut-être que je serai là demain ou peut-être qu'Hélène sera là demain, on ne sait pas. On va attendre des nouvelles. Et moi, je vous invite à mon nouveau rendez-vous. J'espère que vous ne vous tendrez pas de m'entendre, mais samedi midi pour le retour, deuxième saison de Affirmation avec Claudine Metcalf cette fois. Je m'appelle Denis Martin Chabot. À la prochaine!